La proclamación de independencia en su canal.
Les podcasts d'Opuscule, ce sont les récits d'un monde résolu. Un monde parallèle.
Un monde d'anticipation.
La sécheresse bat son plein en ce moment. Nous n'avons eu que 6% des précipitations habituelles du mois d'août. Il y a quelques années encore, il y avait parfois un petit surplus à certaines périodes, mais maintenant c'est bien souvent un déficit plus ou moins marqué. C'est inquiétant à plus d'un titre. D'une part, comme cette pluviométrie est calculée sur la moyenne des 10 dernières années, ça veut dire qu'elle prend en compte les sécheresses des années précédentes, c'est le signe que les choses s'emballent. D'autre part, c'est dramatique parce que notre commune n'a en tout et pour tout qu'un seul point de captation d'eau. Si cette source d'eau se tarissait, comment ferait-on? Dans certains villages français, on fait venir des camions-citernes pour alimenter la population. Chez nous, les élus parlent de faire courir un aqueduc pour acheminer l'eau depuis un site proche de la Loire. Mais rendons-nous compte, il s'agit de plusieurs dizaines de kilomètres, de traverser plusieurs communes. L'eau risque de devenir un luxe à un tarif prohibitif. Faudra-t-il rationner l'eau en France? Au Cap, en Afrique du Sud, des mesures de ce type avaient dû être prises. Dans le pire scénario, il était prévu que les habitants aillent se ravitailler par bidon sur des sites surveillés par l'armée. À l'époque, les autorités avaient été critiquées pour ne pas avoir anticipé l'ampleur de la catastrophe, et pour avoir pris les mesures nécessaires à peine quelques mois avant la date critique. En France, le même scénario se profile. Les scientifiques alertent depuis des décennies sur la baisse du niveau des nappes phréatiques de plus en plus basse. Et pourtant, seuls les habitants de ces villages dont le ravitaillement en eau se fait par camion en prennent conscience, bien, bien trop tard. Et on parle là de villages de 700 à 800 habitants, pas d'une agglomération de plus de 100 000 résidents. La nouvelle un peu rassurante malgré tout, c'est que les scientifiques semblent indiquer que le réchauffement climatique ne va pas trop modifier les précipitations annuelles. Il pleuvra probablement toujours autant, mais de manière plus polarisée. Beaucoup plus à certaines saisons et beaucoup moins à d'autres. La solution pour éviter la panne sèche pourrait donc être de jouer sur deux tableaux. Puiser aussi peu que possible dans les nappes phréatiques, et dans le même temps, stocker l'eau de pluie pour l'utiliser en appoint dans le réseau.
Et tu en viens à quelle conclusion de ton côté?
Eh bien, il y a plusieurs choses. En me renseignant, je me disais que pour moins puiser dans les nappes phréatiques, on pourrait réinjecter les eaux usées dans le réseau d'eau potable. Mais après traitement, hein, bien entendu. En l'état actuel, en France, en fait, on puise toute notre eau dans les rivières et les nappes phréatiques. On traite cette eau pour la rendre propre à la consommation, et puis les eaux usées, ensuite, sont à nouveau traitées en station d'épuration et rejetées dans la nature.
J'ai lu qu'elles sont parfois utilisées pour arroser les espaces verts et en agriculture.
Eh oui, tu as raison. Mais en France, ça reste marginal comme utilisation, je crois que c'est moins de 1%. Tel que je le vois, le problème c'est qu'on traite notre eau en amont, avant consommation, puis en aval, après utilisation. Ça fait en fait deux traitements successifs pour la même eau qui ne sert qu'une fois. Je me dis que si l'on traitait les eaux usées et qu'on réinjectait cette eau propre dans le circuit, ce serait autant d'eau qu'on ne pompe pas dans les nappes phréatiques, ou dans les rivières. Et tout en ne la traitant qu'une seule fois par cycle.
En plus, visiblement, c'est ce qui tend à se faire dans plusieurs pays déjà. Au Japon, à Singapour et aux États-Unis, il y a des réseaux d'acheminement de l'eau distinctes entre eau potable et eau recyclée, c'est-à-dire des eaux usées qui ont été traitées. Ces eaux recyclées servent à tous les usages autres que l'hygiène et la boisson. Mais a priori, les normes sont telles dans certains pays qu'elles sont déjà proches d'une eau potable. En fait, on est déjà capable techniquement de produire de l'eau potable à partir des eaux usées. Et en Californie, les eaux recyclées sont parfois utilisées en complément pour produire de l'eau potable.
Et pendant ce temps, l'eau de pluie collectée par les toitures est bien souvent acheminée dans un réseau distinct et puis est reversée, telle qu'elle, directement dans la nature. Et c'est dommage. Puisque c'est une eau que l'on a captée, qui tombe du ciel, littéralement, pourquoi la laisse-t-on filer comme ça sans s'en servir? On pourrait la stocker et l'utiliser en appoint pendant les saisons sèches. À plus petite échelle, c'est ce que font tous les jardiniers sur leur terrain avec les bidons de récupération d'eau.
Tout à fait, mais si j'ai bien compris, le problème de l'eau de pluie, ce sont les pollutions et contaminants qu'elle peut porter. Néanmoins, j'ai lu qu'en France, les besoins en eau potable ne représentaient que 20% de notre consommation.
Comment ça?
En gros, de toute l'eau potable que l'on consomme, seuls 20% environ nécessitent d'avoir une eau vraiment potable. Pour les 80% restants, on pourrait se contenter d'eau de pluie non traitée.
Ah ouais, c'est énorme comme proportion.
Oui, ça montre la marge de progression que l'on a dans la gestion de l'eau. Je te rejoins sur la captation d'eau de pluie. Je pense que la collectivité pourrait récupérer l'eau des toitures dans le milieu urbain et la stocker en partie. Elle pourrait être traitée pour la rendre potable et soulager les nappes phréatiques. On pourrait aussi envisager des solutions individuelles ou immeuble par immeuble, en circuit local.
Et oui, c'est aussi à ça que je pensais. Je regardais dans notre ville, il tombe à peu près 800 mm de précipitations par an. Ça veut dire qu'il pleut quand même 800 litres d'eau de pluie par mètre carré sur une année. Du coup, avec une toiture de 40 mètres carrés, on pourrait capter théoriquement 32 mètres cubes d'eau de pluie.
Il y aura probablement des pertes par contre, l'évaporation, les mousses du toit.
C'est vrai. Mais mettons qu'il en reste allé 20 mètres cubes. C'est loin d'être négligeable sur la consommation d'une famille à l'année. D'ailleurs, les gens qui recherchent l'autonomie en eau dimensionnent leur toiture pour capter suffisamment d'eau sur l'année, et puis la stockent dans des citernes souterraines. Ils font passer l'eau ensuite dans une série de filtres pour la rendre potable. Et grâce à ce système, l'eau de pluie devient leur seul approvisionnement. Cela n'est pas possible pour chaque famille, bien sûr, mais si l'on pouvait suppléer globalement ne serait-ce que, je sais pas, 20 à 30% de l'eau consommée, ce serait probablement un gain très appréciable. Les solutions semblent exister, mais encore faut-il vouloir les mettre en œuvre. Pourquoi avons-nous toujours systématiquement 30 années de retard dans nos actions et nos politiques? Pourquoi toujours attendre le dernier moment, attendre d'être au pied du mur? On a tous, j'imagine, une tendance plus ou moins marquée à la procrastination. Remplir ses déclarations d'impôts, repeindre ses volets, faire les courses, peu importe. Chacun a des besognes qu'il préfère remettre au lendemain. Mais sur la gestion de l'eau, on parle de politique publique, d'un intérêt absolument universel. Tout le monde a besoin d'eau potable pour vivre. La gestion de l'eau à ce niveau ne dépend pas de l'action d'une seule et même personne. Et pourtant, changer de système semble parfois encore plus difficile. Comme s'il avait une gigantesque inertie. Il y a quelques mesures à prendre au fur et à mesure pour ne pas être pris au dépourvu. Bien sûr, collectivement, ça coûte un peu d'argent et un peu de volonté, mais collectivement, nous n'avons jamais été aussi riches de toute l'histoire de France. Pourquoi en est-on incapable dans nos fonctionnements collectifs?
La nouvelle est tombée. C'est la guerre comme chaque fois. Attentats, pandémie, toutes les ficelles s'y est au roi. D'état d'urgence, d'état de siège, en état policier. Leur appétit d'ocre dévore tout sans satiété, comme chaque fois. On perd l'Alsace et la Lorraine, comme chaque fois. Les généraux sont dépassés, satures d'argentiers avides à la vie mondaine, vestiges d'une époque brutalement surannée. Qu'importe les alertes de la basse main-d'œuvre, qu'importe le désastre dont elle apporte des preuves. Sur l'autel de la sainte croissance, on peut tout sacrifier, la planète, les hommes et notre humanité. Ce n'est pas une guerre, non, avec la rançon de notre bêtise. Ce n'est pas une guerre, non, avec le visage de leur traîtrise. Ce n'est pas une guerre, non, c'est un culte qui se meurt, une secte criminelle qui nous transforme. En fossoyeur, ce n'est pas une guerre, non, avec la rançon de notre bêtise. Ce n'est pas une guerre, non, avec le visage de leur traîtrise. Ce n'est pas une guerre, c'est un culte qui se meurt, une secte mortifère qui nous transforme en fossoyeur. Ils ont tous les pouvoirs, légiférer, juger, exécuter, tu rentres à la niche. Finis au panier, les éditocrates, le préfet allemand qui aboie. Leurs bottes sont à l'unisson et ils marchent tous au pas. Si tu ne peux ouvrir les yeux, c'est qu'ils t'ont cousu les paupières. Tu pourras implorer leurs cieux, aucun accès à ta prière. La fièvre monte, les poumons râlent. Leur violence crève les yeux jusqu'à graver nos pierres tombales. Ce n'est pas une guerre, non, avec la rançon de notre bêtise. Ce n'est pas une guerre, non, avec le visage de leur traîtrise. Ce n'est pas une guerre, non, c'est un culte qui se meurt, une secte criminelle qui nous transforme en fossoyeurs. Ce n'est pas une guerre, non, avec la rançon de notre bêtise. Ce n'est pas une guerre, non, avec le visage de leur traîtrise. Ce n'est pas une guerre, c'est un culte qui se meurt, une secte mortifère qui nous transforme en fossoyeurs. Elle rend avide, elle rend hargneux. La pandémie, Ce n'est pas celle que tu crois, c'est celle qui t'asphyxie et enfante les rois. La pandémie, c'est celle qui enchaîne ta liberté, la pandémie. C'est celle qui te garde confiné, la pandémie. Elle remonta à la nuit des temps. Une maladie infectieuse dans le virus et l'argent. Je veux pas me laisser mener, si on est tous dans le même bateau. En sortant du cachot, moi j'irai fumer du macro. Pendant que mon voisin chante chaque soir sur son balcon. À la libération, on ira fumer du... Ce n'est pas une guerre, non, avec la rançon de notre bêtise. Ce n'est pas une guerre, non, avec le visage de leur traîtrise. Ce n'est pas une guerre, non, c'est un culte qui se meurt. Une secte criminelle qui nous transforme en fossoyeurs. Ce n'est pas une guerre, non, avec la rançon de notre bêtise. Ce n'est pas une guerre, non, avec le visage de leur traîtrise. Ce n'est pas une guerre, c'est un culte qui se meurt. Une secte mortifère qui nous transforme en fossoyeurs.
La valeur suprême. Je pense que tout vient de ce que l'on définit comme valeur suprême. L'argent appelle l'argent, me disait ma mère. Les gens qui ont suffisamment d'argent ne le dépensent pas. Ils l'investissent pour faire fructifier leur capital. Ceci dans le but légitime d'avoir plus d'argent. Argent qui sera bien entendu réinvesti pour, eh bien, augmenter encore plus leur capital. Et dans leur esprit, c'est probablement pour se mettre à l'abri en cas de coup dur, comme un écureuil fait sa réserve de noisettes pour passer l'hiver. C'est aussi pour grimper dans l'échelle sociale, avoir de meilleurs postes pour, eh bien, avoir plus d'influence, de meilleures opportunités, de meilleures conditions de vie en gagnant plus d'argent. Bon, certes, je caricature un peu, c'est probablement plus profond que ça. C'est aussi l'héritage et l'histoire d'une famille. Travailler dur et capitaliser pour donner une vie meilleure à ses enfants, afin qu'ils fassent de bonnes études, obtiennent un bon poste et soient à l'abri du besoin en gagnant bien leur vie. Et puis leur léguer un capital qu'ils feront fructifier à leur tour, dans un monde qu'ils considèrent incertain et concurrentiel. Je me le représente comme un ballon qu'on doit gonfler. Qu'on ne dégonfle jamais, sauf pour en transférer l'air dans un ballon qui pourra gonfler encore un peu plus. Et on se le transmet de génération en génération. On ne joue pas avec le ballon. C'est un ballon sacré. Un ballon qui sert de bouée de sauvetage si l'on tombe à la mer. Et le ballon doit grossir parce qu'il doit toujours pouvoir faire face à de plus grosses tempêtes, aider de plus en plus de monde dans la famille qui s'agrandit. Et l'on passe des vies entières à faire gonfler ce ballon, inlassablement. Ce ballon, ce capital, est la valeur suprême, celle pour laquelle on travaille toute sa vie. On y dédie ses études, son choix de métier, son lieu de vie et même ses relations. Toute décision, toute action doit pointer vers cet unique objectif, gonfler le ballon. Pendant la pandémie, le débat faisait rage sur la levée des brevets pour les vaccins. La plupart de ceux qui défendaient le maintien des brevets arguaient que les entrepreneurs qui avaient investi dans la recherche et la production des vaccins méritaient, bien entendu, de récolter les fruits de leur réussite. C'était la moindre des choses. Les fruits de leur réussite, naturellement, c'était de l'argent. L'argent comme seul objectif, comme seule récompense valable. Adieu la satisfaction d'avoir conçu un vaccin. Le plaisir du travail bien fait. L'émotion d'avoir sauvé des dizaines de milliers de vies ou la reconnaissance des États du monde entier. La seule récompense valable et reconnue à leurs yeux, c'était l'argent. L'argent, la valeur suprême. Ce modèle de société insiste sur le fait que chacun est maître de ses choix et doit travailler à sa propre condition, à son patrimoine financier. Elle va souvent de pair avec une maxime du type « les siens d'abord ». Je me pose continuellement la question. Faisons-nous société avec cette vision? Une somme d'individus qui considèrent que chacun travaille prioritairement, voire exclusivement pour soi et pour les siens, fait-elle réellement société? La société pour eux se résume souvent à maintenir les conditions de sécurité suffisantes pour continuer à faire leurs affaires sans danger. Police, justice, armée. Les fonctions régaliennes minimales pour leur garantir la sécurité physique des personnes, et pour tout le reste, chacun pour soi. Peu importe si la société produit de la richesse autant que de la pauvreté. Peu importe les inégalités. Seul compte la liberté des plus méritants à amasser de l'argent. Dans ce monde dont on constate aujourd'hui que cette société conduit à un cataclysme écologique planétaire, la valeur suprême doit changer. Et plus j'observe mon terrain, plus je me rends compte de la formidable puissance de la nature à créer la vie. Plus la nature y est laissée libre et encouragée, plus elle colonise chaque interstice, chaque horizon du sol. Et plus l'on cherche à augmenter le rendement, en produire plus et gagner plus, plus l'on chasse des espèces à grand renfort de produits chimiques, et plus la nature s'effrite en cascade, les insectes, puis les animaux, les plantes, et pour finir le sol qui meurt et part à la mer, ou s'envole en poussière. Sur Internet, quand il fonctionne aujourd'hui, on peut encore voir des vidéos de ces personnes qui restaurent des sols dans le désert. En Arabie Saoudite, à Al-Baïda, Nils Pakman et son équipe réussissaient à faire pousser des buissons et des arbres dans des régions où il ne pleut parfois pas une goutte pendant près de 3 ans. De la même manière, en Inde, dans des villages désertés pour cause de sécheresse intense, un organisme organise un concours pour récompenser le village qui a eu les idées les plus ingénieuses pour résoudre ce problème. Et tant d'autres. Le point commun entre toutes les réussites, la collaboration, la créativité, l'entraide. La volonté de recréer un habitat favorable pour eux, mais aussi pour tout le cortège d'animaux et de plantes qui viendraient y élire domicile. Ils avaient tous recréé des zones captant l'eau de pluie quand elle tombe. Des retenues d'eau qui limitent le ruissellement de surface et permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol et l'humidifier en profondeur. La vie revient alors peu à peu et recolonise le milieu. En quelques années, à peine. Et si c'était celle-là la valeur suprême qu'on doit favoriser? La nature et la vie. Et voilà, c'était le 11e épisode du podcast Récit d'un monde raisonné du projet Opuscule. La chanson que vous y avez entendue s'appelle Pandémie et vous pourrez la retrouver sur le site internet du projet Opuscule, www.projetopuscule.com. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le podcast sur le site de l'iTunes Store et sur Apple Podcast et à le partager avec les gens qui pourraient être intéressés par les sujets qui y sont abordés. Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode.